Bonjour, vous écoutez un podcast de l'Académie saison 3, proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'académiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette session de sensibilisation dédiée au métaverse. Je rappelle que c'est une session de sensibilisation qui est organisée par l'Académie du MEDEF. L'Académie du MEDEF, c'est l'organisme de formation du MEDEF qui a pour objectif d'accompagner les collaborateurs du mouvement des entreprises de France dans la diffusion des sujets, des actualités, des informations stratégiques qui sont nécessaires aux entreprises pour continuer à participer au développement de l'économie de notre beau pays. Voilà. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Clémentine Furigo qui va se présenter.
Bonjour à tous, donc Clémentine Furigo, je suis en charge au MEDEF du comité régulation du numérique et du coup on s'occupe de tous les sujets numériques et juridiques en lien avec le numérique et donc on travaille un petit peu sur le métavers, voir comment les entreprises peuvent s'en saisir et quelles sont les questions juridiques qui se posent dans le métavers.
Et donc, bonjour à tous, Stéphanie Tison, je suis directrice adjointe de l'International et je suis en charge de la Commission Souveraineté et Sécurité économique des entreprises. Et comme toute nouvelle technologie est affaire de souveraineté, c'est pour ça qu'avec Clémentine et son équipe, on a décidé aujourd'hui de vous proposer un webinaire sur le sujet pour en savoir un peu plus, parce qu'on a vu beaucoup d'articles. On se demandait un peu si c'était une mode. Le titre, c'est « Mythe ou réalité ». Donc, on a la chance aujourd'hui de recevoir M. Mazac, qui va se présenter et qui va aussi, surtout, rentrer avec nous dans cette réalité virtuelle.
Ben merci. Effectivement, alors pour ma part, je suis Jérôme Mazac. Je suis directeur d'innovation dans un groupe informatique, le groupe Micropole. C'est un cabinet de conseil. En fait, on accompagne les entreprises dans la transformation vers le digital, la transformation vers le cloud, et également sur tout ce qui est valorisation de leur patrimoine de données pour améliorer leur business. Micropole, c'est un groupe qui a plus de 30 ans d'existence, 1200 collaborateurs à travers le monde, et qui donc est à la fois une agence de conseil, un cabinet de conseil, et à la fois une simple agence IT, puisqu'on accompagne nos clients également sur la partie de réalisation des projets. Alors, c'est un vaste sujet que le métaverse, effectivement. L'idée, en préambule, je souhaiterais, avant de vraiment aborder le sujet du métaverse, faire un focus sur Web3 et métaverse. Parce que souvent, dans l'esprit des gens, beaucoup confondent le Web3 et le métaverse. Et c'est important de bien comprendre que le Web3, ce n'est pas le métaverse, et le métaverse, ce n'est pas le Web3. Le Web3, si je vulgarise rapidement le concept, c'est une vision d'un Internet décentralisé. C'est-à-dire que c'est un Internet où il n'y a plus de GAMAM. La donnée est décentralisée partout dans le monde, dans des nœuds informatiques. Et quelque part, puisqu'il n'y a plus des intermédiaires, la donnée appartient aux utilisateurs, aux internautes, et non plus à ces géants d'Internet. Ça, c'est le Web3. Et le métaverse, c'est un concept d'expérience immersive. On va le voir, qui peut être incarné sous différentes technologies et de différentes façons. Mais finalement, le métaverse et le Web3 se basent sur les mêmes technologies, sur les mêmes briques de base, que sont la blockchain notamment, que sont les crypto-monnaies, par extension, les NFT. Et c'est vrai que les deux, utilisant ces mêmes briques technologiques, on a tendance à confondre les deux. Je pourrais dire que le métaverse, c'est le réceptacle global. Le Web3, c'est le réceptacle global. Le métaverse, c'est une partie du Web3, ou pas d'ailleurs, parce qu'on voit bien que le métaverse, c'est parfois porté par certains GAMA, notamment Meta, en tout cas dans la façon dont c'est mis en avant et dans la façon dont on nous fait fantasmer. Mais voilà, c'était un point important, je pense, en préambule, que de vraiment faire la distinction entre Web3 et métaverse. J'avais fait un petit slide sur le Web3 en quatre mots, je ne vais pas y passer longtemps, sinon on n'aura pas le temps pour le reste de la présentation, mais voilà, en résumé, le Web3, c'est de la décentralisation, donc c'est cette promesse de redonner, de rediffuser l'ensemble de l'information de l'Internet, non plus chez Amazon, chez AWS, chez Microsoft, Google, mais de le socker et de le mettre à disposition sur l'ensemble de la blockchain. Et du coup, la liberté, la sécurité de la donnée et la façon dont les données personnelles vont être utilisées, tout ce paradigme-là change énormément avec le Web 3. Et c'est tout ce qui est en train de se construire. On est vraiment à la transition entre Web 2, qu'on vit actuellement dans 95% du cas de nos expériences sur Internet, et le futur d'Internet qui est le Web 3. Alors, la question de base, effectivement, c'est métaverse, mythe ou réalité. Eh bien voilà, je crois que tout est résumé ici. Le métaverse est mort.
C'était un webinaire.
Voilà, j'étais ravi d'être avec vous ce matin, merci beaucoup. Alors, le métaverse est mort tel qu'on le conçoit aujourd'hui. La slide d'après, c'est vivre le métaverse. Alors, effectivement, vous l'avez entendu depuis le début de l'année, il y a pas mal de sujets qui ont fait parler du métaverse. 2021-2022. Quel que soit le salon technologique auquel vous alliez, c'était métaverse partout, métaverse à tort et à travers, utilisé de façon, d'un point de vue marketing, de façon complètement erronée. Et puis fin 2022, avec tout ce qui s'est passé au travers de la crypto notamment, avec les événements autour de FTX, tout cet effet FOMO qu'il y a pu y avoir au travers de la crypto-monnaie, a fait que, par conséquence, le métaverse, qui est aussi principalement basé sur principe des NFT et des cryptos, on a pâti. Il y a aussi un autre, alors vous les avez entendu, j'ai pris 2-3 exemples. Évidemment, c'est Facebook qui dit se séparer de 12 000 collaborateurs depuis le début de l'année, dont une partie travaillait spécifiquement sur le métaverse. Il faut voir qu'ils en avaient embauché 10 fois plus en 2 ans. C'est qu'une petite partie, ils n'ont pas viré tout leur effectif métaverse. On a entendu parler de Microsoft qui a arrêté son métaverse pour se concentrer sur l'intelligence artificielle générative. On a aussi entendu parler de Disney qui mettait un terme à ses ambitions de présence sur le métaverse. Bref, tout ça pourrait faire croire que le métaverse est mort. En tout cas, je pense que le métaverse est en creux de la vague. Comme toute nouveauté technologique, il y a un effet d'annonce. On est dans le haut de la vague, dans la hype de l'annonce. Et puis à un moment donné, ça retombe un petit peu parce que les exigences qu'on en attend et la maturité technologique, la façon dont les acteurs avancent sur le sujet ne sont pas forcément alignés. Et du coup, on a toujours ce phénomène, quelle que soit la technologie, où il y a un effet déceptif avant de réussir à recadrer, recentrer le sujet sur des vrais cas d'usage. Et je pense que c'est ce qui va se passer effectivement avec le métaverse. Moi, il y a un autre sujet aussi, je pense, qui est important de noter dans cette période.
On a une question sur le chat.
Oui.
Excuse-moi. Quelqu'un qui demande, dans le Web 1 et le Web 2, on était aussi propriétaire des données, il n'y a donc pas de changement sur ce point.
Alors, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Alors, le Web 1, effectivement, les données, on les consommait. C'est-à-dire que c'était... Finalement, avant les années 2007, 2008, 2010, l'apparition de l'iPhone notamment, c'était les marques qui venaient publier du contenu sur l'Internet et qu'on pouvait consommer. Donc nos données personnelles, on les partageait, on ne les partageait pas. Ce n'était pas encore l'époque où on devait les partager pour avoir accès à des services. Depuis l'apparition de la révolution de l'usage de l'Internet, notamment à travers les smartphones, on a créé tout un, et on est passé à ce web social où finalement le contenu, c'est vous, c'est moi qui le créons pour les marques. Quand on publie sur Insta sa nouvelle paire de chaussures, quand on, sur TikTok, on va promouvoir une marque ou qu'on soit influenceur ou non, ou même en vacances, finalement on crée du contenu. On crée du contenu en faveur ou en défaveur parfois des marques. Et quand je dis la donnée personnelle, c'est finalement ce travail de création de contenu, on n'est pas rémunéré pour ça. Et les marques en profitent, encore une fois ou pas si c'est du négatif. Et ça, c'est le web 2. C'est ce web social où finalement on vient créer du contenu et où on donne de plus en plus nos informations personnelles pour pouvoir accéder à ce contenu-là. Et ces informations personnelles, alors certes, elles nous appartiennent, mais c'est finalement les GAFAM qui les utilisent. C'est Google qui les revend, c'est Meta qui les utilise pour vous pousser de la pub ciblée, c'est votre Fitbit qui vous demande si elle peut collecter des données et les renvoyer à un tiers. C'est en ça que je dis que les données personnelles sont consommés par les acteurs qui détiennent, qui animent le web aujourd'hui. La décentralisation dont je parlais tout à l'heure dans le Web 3, c'est que finalement, comme il n'y a plus ces gros acteurs-là, toute la donnée est décentralisée, elle n'est plus votre site de marchand préféré de chaussures n'est plus hébergé chez AWS, les données ne sont plus sur AWS, elles sont dans le cloud quelque part, dans la blockchain quelque part. et bien finalement, ces données-là, elles ne peuvent plus aussi facilement être utilisées par les marques. Et donc, quelque part, les marques vont toujours avoir besoin de ces données-là, de vos données personnelles. Elles vont toujours être, avoir envie de savoir si vous avez moins de 30 ans, si vous aimez plus les chaussures rouges que les chaussures vertes pour vous pousser de la publicité qui va bien. Ça, ce sera une nécessité toujours demain dans le web du futur. Pour autant, elles ne pourront pas le récupérer aussi facilement auprès des gros acteurs, des GAMAM qui font le web aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles devraient venir vous les demander à vous. Et vous allez pouvoir choisir de les partager ou pas. Et surtout, quelles données choisir? Et il y a déjà plein d'initiatives, hein, que ce soit sur des navigateurs Internet, que ce soit sur certains acteurs, que ce soit sur certaines marketplaces, qui vous demandent de monétiser votre donnée personnelle. C'est-à-dire, vous êtes, par défaut, ils ne la partagent pas. Si vous voulez la partager, donner votre âge avec la marque sur laquelle du site web, hein, vous êtes rémunéré en crypto. Vous connectez votre portefeuille crypto et puis on vous donne alors 0,001 Ether. Évidemment, il ne faut pas espérer être riche en partageant son âge ou son sexe, mais voilà, c'est ça que j'entends par le partage de données personnelles. Mmh. Certes, aujourd'hui, elle nous appartient, on la partage en tout cas, et on en fait. Et les acteurs, la plupart du temps, en font ce qu'ils veulent sans forcément qu'on ait explicitement. Enfin, si, on a donné explicitement notre accord parce qu'on a accepté les CGV. Mais dans le détail, qui a lu les CGV? Bon, voilà.
Merci, c'est très clair.
Et donc, pour revenir à ma slide, il y a aussi un phénomène en ce moment qui est que les IA génératives, alors ChatGPT depuis quelques mois, ont créé une euphorie autour de ce concept d'IA générative qui a aussi un petit peu mis le métaverse et les technologies qui vont avec au second plan. Et donc, le buzz média fait qu'aujourd'hui, on se concentre sur d'autres technologies qui ne sont pas forcément si éloignées que ça, d'ailleurs, du métaverse, et je vais y revenir sur la fin. Et c'est aussi la raison pour laquelle ben, on a une perte de visibilité, donc on se pose des questions, et où est-ce qu'on va aller avec le métaverse. Mais la question principale, finalement, au-delà de est-ce que c'est un mythe ou une réalité, et est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il va survivre, c'est qu'est-ce que c'est le métaverse. Et là-dessus, on voit bien que finalement, personne ne sait clairement ce qu'est le métaverse. Vous pouvez demander à 10 personnes, il y aura 10 explications différentes. C'était une étude fin d'année dernière faite par McKinsey qui explique que 47% des personnes interrogées, alors c'est une étude US, comprennent à peu près ce qu'est le métaverse. 4% confondent carrément méta et métaverse, alors que ce n'est pas du tout la même chose. 19%, 20% quasiment, un cinquième des interrogés ne savent pas expliquer ce qu'est le métaverse. Donc on voit bien qu'il y a quand même une mésentente, mécompréhension sur ce qu'est le métaverse. L'idée de ce matin, c'est aussi de donner un petit peu plus de billes, d'exemples, et que vous puissiez voir exactement ce qu'il en est de ces univers-là. Pour moi, ma définition à moi du métaverse, c'est que ce sont des univers immersifs, des expériences immersives, qui peuvent être vécues en temps réel, en commun. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que je ne parle pas dans mon explication, dans ma définition, de réalité virtuelle. Je ne parle pas de... Le casque de réalité virtuelle, c'est bien, j'insiste bien sur le fait que ce sont des expériences qu'on va vivre en commun, quelle que soit notre localisation sur la planète, et qu'on va vivre en temps réel avec d'autres personnes. Et des expériences qui sont censées être immersives, en tout cas qui nous apportent quelque chose de plus que la réalité. Pour moi, c'est la vraie définition des métavers.
On a tous été un peu invités à des événements, je pense, dans notre écosystème, qui nous invitaient à l'événement dans leur univers,
exactement.
En tout cas, où il fallait créer un avatar. Mmh. En fait, on assistait aux conférences dans le...
C'est un exemple de métaverse. Voilà, et c'est pour ça que moi, je préfère parler quand on en parle de métaverse, je ne dis pas le métaverse, mais je dis souvent les métaverses, parce qu'il y en a pléthore, il en existe plein. Et je pense même qu'à terme, on aura plutôt une rationalisation de ces environnements-là par secteur. C'est-à-dire qu'il y aura des acteurs qui vont se spécialiser dans l'éducation, dans le métaverse au travers de l'éducation, dans le métaverse au travers de la formation, dans le métaverse au travers du gaming. Et on aura comme ça, très certainement pas, comme le fantasme Mark Zuckerberg, une plateforme qui va réunir l'ensemble des univers, mais plutôt plusieurs univers qui vont se faire sur des plateformes différentes. Alors pas le nombre qu'on en a aujourd'hui, parce qu'ils sont très nombreux, il y aura forcément une rationalisation. Mais voilà, là vous avez quelques exemples de métaverses qui sont aujourd'hui, il faut se le dire, hein, très souvent orientés, gaming, en tout cas les plus connus, ceux qui sont les plus visibles. The Sandbox, le métaverse français... Roblox, un métaverse orienté pareil, gaming, Fortnite est considéré comme un métaverse, hein, pour ceux qui jouent peut-être Fortnite ou dont les enfants jouent à Fortnite. Fortnite est considéré comme un métaverse parce qu'on y vit des expériences en commun en temps réel. On va voir des exemples un peu plus tard. Bon, Horizon World de Meta, Decentraland, je vais y revenir sur tout. J'ai d'ailleurs une vidéo. Voilà. Là, je vais vous passer une vidéo avec plusieurs exemples de métaverse. Ici, vous êtes dans un métaverse qui s'appelle Spatial. C'est un endroit où vous pouvez venir construire un univers, construire. Donc, chez Micropole, on a construit plusieurs univers dans différents métaverses. Là, c'est un penthouse. Dans Spatial, nous, on l'utilise très clairement pour faire nos réunions clients. On le met à disposition de nos clients pour venir faire leur codir ou autre. C'est un moyen de faire des conférences ensemble, autrement qu'au travers d'un simple Teams, avec le moyen de partager de la formation, je vais mettre une pause, ou d'échanger de façon un peu plus ludique, un peu plus conviviale, un peu moins formelle que si on le fait au travers d'un simple Teams. Alors, là encore, il existe plusieurs plateformes. Là, vous avez une deuxième plateforme qui s'appelle Workrooms, dans laquelle on a également un espace. Cet espace-là, on s'en sert pour les formations. Donc, à chaque fois, on modélise l'espace en fonction de ce qu'on attend. Cet espace-là, c'est vraiment un tableau blanc sur lequel on va pouvoir participer tous en même temps. Donc, on se lève de son bureau, on va vers le tableau. Ça veut dire que chez vous, virtuellement, avec votre casque, vous vous levez de votre bureau, vous avez défini votre espace pour que vous connaissiez les meubles, et vous allez écrire sur un tableau virtuel. Ça, c'est un deuxième exemple de ce que sont les métaverses aujourd'hui, des expériences en tout cas qu'on y retrouve. Un troisième exemple, c'est un métaverse qui vous permet de vivre des expériences de gaming, de partage, de conférences. C'était à Space VR de Microsoft. Là, vous voyez mon avatar tel qu'il est modélisé. Vous voyez vraiment la gesture est reproduite entièrement. C'est-à-dire qu'il y a du eye tracking dans les casques les plus récents. Et quand je bouge mes doigts, mon avatar bouge mes doigts dans l'expérience virtuelle. Là, vous avez un autre exemple d'un métaverse qui permet une sorte de musée de NFT. C'est-à-dire que c'est un ensemble 3D dans lequel on va aller dans des salles d'exposition de NFT et vous allez pouvoir, à partir d'ici, acheter un NFT s'il vous plaît, etc. C'est un métaverse. Un autre exemple du métavers, c'est Decentraland, dont on entend souvent parler.
C'est dans celui-là qu'il y a des entreprises qui achètent des terrains ou des
Alors,
des
immeubles, on peut acheter des terrains et des immeubles à peu près dans les trois que je vous ai cités. Decentraland, c'est là où on a entendu parler récemment, parce qu'il y a eu la Fashion Week. Ça fait la deuxième année où il y a une partie des marques qui ont la Fashion Week dedans. De base, c'est un jeu. Vous vous baladez dans un univers virtuel, vous venez accomplir certaines quêtes qu'on vous demande. Vous gagnez de la crypto en accomplissant les quêtes. Et vous allez pouvoir assister à des environnements. Donc, vous avez une map, vous allez visiter le quartier Samsung, et Samsung, il présente l'ensemble de ses produits dans la réalité virtuelle. Vous allez vivre des expériences que les marques viennent vous proposer dans ce terrain de jeu-là. Ça, c'est un exemple de 3-4 métaverses que je vous donne là, qui sont très orientés gaming, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les expériences qu'on en fait, on n'a pas encore trouvé la killer app du métaverse. Donc aujourd'hui, c'est souvent des expériences de play and earn, ou des expériences de mise en avant de produits, de communication, et qui se vivent, vous voyez, soit de façon très ludique, avec une interface graphique gaming, soit de façon un petit peu plus photoréaliste, comme ça peut être le cas là dans Spatial.
Et du coup, puisque tu as dit que le métaverse n'était pas forcément lié à la réalité virtuelle ou au casque, c'est quoi la différence avec Second Life qu'on a connu dans les années 2000,
c'est ça ? Alors, à date, si j'étais cynique, je dirais il n'y en a pas beaucoup. Encore une fois, on n'a pas encore réussi à trouver... Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup d'un point de vue utilisateur. Il y en a beaucoup d'un point de vue marque. C'est-à-dire qu'à l'époque, les marques n'allaient pas exploiter leur enseigne, leur marque de la même façon qu'elles le font aujourd'hui dans le métaverse. Elles n'étaient pas forcément systématiquement toutes présentes dans Second Life. C'était plus une expérience de vie commune. On avait notre avatar et puis on vivait entre avatars dans un jeu. Aujourd'hui, quand on regarde les métaverses que je vous ai présentés, d'un point de vue utilisateur final, je fais la même chose. Sauf que par contre, les marques se sont emparées de ces espaces-là en venant proposer un produit. Il y a un aspect plus business, il y a un aspect plus communication. Et ça va le devenir de plus en plus très certainement parce qu'avec l'avènement de la crypto qui va rester, hein, quel que soit les hauts et les bas que connaît cette technologie, ben on va avoir, j'en parle un petit peu plus loin, une transformation aussi de la relation entre une marque et ses clients. Et donc, pour répondre à la première partie de ta question, sur la partie réalité virtuelle, effectivement, moi, je n'associe pas, en tout cas, le métaverse que à la réalité virtuelle. Quelques-uns des environnements que je vous ai présentés dans la vidéo sont accessibles au travers d'un laptop. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un casque ou des lunettes de réalité virtuelle. Vous pouvez y accéder directement en 2D au travers de votre PC. Et pour moi, la réalité virtuelle va bien plus loin. J'y associe les expériences qu'on peut y vivre en réalité augmentée et en réalité mixte. Donc, réalité mixte, pour ceux qui ne connaissent pas, vous chaussez un appareil qui s'appelle l'HoloLens et vous avez des hologrammes autour de vous avec lesquels vous pouvez interagir avec vos mains tout en restant dans la vie réelle. C'est-à-dire que les lunettes sont transparentes, on se voit tous au travers de simples lunettes, mais je projette dans ces lunettes des éléments digitaux avec lesquels je peux interagir.
C'est ce qu'on voit là.
C'est ce qu'on voit sur la droite, en bas à droite, ici. La réalité augmentée, ben vous l'avez très certainement déjà expérimenté, c'est je viens projeter au travers d'un écran, de mon smartphone la plupart du temps, ou de ma tablette, un élément digital en 3D dans un environnement réel. Ce sont déjà des expériences 3D, donc un des éléments du métaverse. Pour certaines de ces expériences, elles sont déjà communes et en temps réel. Il existe déjà des expériences où vous allez faire une chasse au trésor tous ensemble, alors que chacun est dans un endroit du monde différent en réalité augmentée. C'est-à-dire chez vous, dans une pièce, vous recréez au travers de la réalité augmentée un environnement virtuel dans lequel vous allez devoir chercher, faire un escape game, chercher des indices, et ce, tous ensemble, au travers, vous n'êtes pas physiquement ensemble dans la pièce. Ce sont déjà des expériences qu'on peut assimiler à ce que, au mot, à ce qu'on met derrière le métavers. C'est pour ça que j'insiste vraiment, il ne faut pas voir, et je trouve que c'est l'erreur que font beaucoup, métavers égale réalité virtuelle égale casque, et ça se limite à ça. Non, pour moi non. Et je pense, et je vais revenir sur la fin, donc je ne vais pas insister là-dessus, que finalement, ce qu'on est en train de vivre avec l'avènement des IA génératives, ChatGPT, tout ce que vous voyez avec Dali et consorts, c'est un moyen de continuer à faire évoluer le métaverse différent et à transformer les expériences du métaverse aujourd'hui, qui sont somme toute basiques, on ne va pas se le cacher, en expériences beaucoup plus immersives et encore plus différenciantes de ce qu'on vit dans la réalité. Et c'est un des leviers de succès du métaverse. Alors, concernant la maturité technologique, très rapidement, moi je suis au CES chaque année, et depuis 2 ans, évidemment, les acteurs sont déploient des efforts colossaux pour créer de nouveaux matériels autour de ces technologies de réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte. Les casques s'allègent, prennent de plus en plus d'autonomie, sont de plus en plus discrets, et on voit bien qu'il y a un vrai effort d'un point de vue industriel, pour rendre accessible la technologie permettant d'accéder à ces environnements-là. Et si je regarde, si j'étends ma réflexion un petit peu plus largement, à ce dont on a besoin pour que le métaverse fonctionne, eh ben, l'environnement 3D, aujourd'hui, pas de difficulté, on sait reproduire de façon très simple et pas très chère, des environnements 3D photoréalistes ou entièrement modélisés. La géospatialisation, vous mettez votre casque, on voit vos mains, on voit où elles bougent, vous vous déplacez vous-même dans une pièce, c'est retranscrit sur l'avatar sans aucune difficulté.
Et c'est ce qu'on a vu aussi avec le développement des technologies, avec les capteurs sensoriels au niveau des mains, avec les combinaisons
ouais.
Les capteurs.
Alors, il y a effectivement, aujourd'hui, la plupart du temps, une expérience de réalité virtuelle se vit au travers du sens de la vue et de l'ouïe. C'est à peu près tout.
Et l'odorat avec...
Arrivent des vraies technologies, comme on a pu les voir hier, qui rajoutent des sens. Le toucher,
avec de la... On
était au Laval Virtual hier, qui est un des salons qui promeut la réalité virtuelle, la réalité, toutes ces expériences de alter-réalité, on va dire. Et effectivement, on a vu un casque, un dispositif sur un casque qui permet de rajouter l'odorat à l'expérience virtuelle. Donc, on vient de diffuser en fonction de l'interaction qu'on a dans l'univers virtuel des odeurs qui viennent vous immerger de plus en plus dans votre expérience. Pareil pour le toucher. Au CES, moi, j'ai essayé cette année une combinaison haptique qui est très franchement pas plus épaisse que ma chemise et qui me faisait ressentir sur l'ensemble de mon torse le toucher, le frottement, la caresse de façon ultra réaliste. Et donc, on voit bien qu'on rajoute des sens à une expérience qui aujourd'hui ne se vit dans 95% des cas qu'au travers de la vue et de l'ouïe. Et ça, ça va aussi contribuer à créer des nouvelles idées, avoir de nouvelles idées pour créer de nouvelles expériences dans le métaverse. Et donc, l'interface utilisateur, moi, c'est le reproche que je fais aujourd'hui peut-être à ces univers-là, c'est que tout n'est pas simple, tout n'est pas fluide. C'est pas très simple quand on veut passer d'une expérience à une autre. Il faut être aguerri avec ce concept d'utilisation de casque de réalité virtuelle. Il faut être aguerri.
Quand vous dites passer d'une expérience à une autre, c'est quoi? C'est d'un type de métaverse à un autre ou c'est au sein même du
C'est d'un type de métaverse à un autre. Vous voulez vivre une expérience d'immersion au cinéma, vous allez dans un métaverse. Vous voulez passer dans un autre métaverse, c'est pas comme dans la réalité. Je franchis ma porte de mon salon pour aller dans mon bureau travailler. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut comprendre comment. Il faut utiliser les manettes de la bonne façon. Les boutons pour sortir d'une expérience ne sont pas forcément les mêmes dans la manette. La façon de se déplacer dans certains métaverses n'est pas la même. Parfois, vous vous téléportez, parfois, vous glissez. Alors, ça peut se paramétrer. Mais pour quelqu'un qui débute, ce n'est pas ultra simple. Et donc, d'un point de vue UX, je dirais que ce n'est pas encore suffisamment simplifié pour permettre d'avoir une expérience sans couture. Quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet sur lequel les acteurs doivent travailler.
Et vous pensez que c'est possible, une harmonisation des
si métavers? Les acteurs s'y penchent, oui, c'est possible. De plus en plus, on prend conscience de ce problème-là. C'est-à-dire qu'après une période d'un an ou deux en disant « Bon, et les gars, c'est moi qui suis le patron, et c'est vers moi que vous allez tous venir, et vous allez utiliser ma technologie », on voit bien que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, chacun se dit « Bon, peut-être qu'il faut qu'on commence à imaginer une norme commune sur laquelle on va tous converger » pour pouvoir améliorer les choses. Le travail se fait, mais il se fait très lentement. Et en attendant, c'est pas simple.
Et du coup, cette norme, elle ne doit pas provenir que des entreprises. Je suppose que, et ça, je me tourne aussi vers toi, c'est que les gouvernements aussi vont s'en mêler peut-être à un moment donné.
Les utilisateurs.
Ouais, les gouvernements ne s'emparent pas encore vraiment du sujet parce que c'est encore trop éloigné d'un point de vue expérience qu'on va pouvoir y trouver. Les réflexions au niveau gouvernemental, ont commencé quand on a commencé à parler d'harcèlement dans le métaverse. Mmh. Et là, on s'est dit, mince, alors finalement, l'homme est suffisamment bête pour avoir les mêmes biais dans le virtuel que dans la réalité. Il fallait pas s'attendre à autre chose. C'est-à-dire que l'homme est bête dans la réalité, il ne va pas être plus intelligent dans le métaverse. Et là, tout de suite, les organisations ont commencé à se poser des questions en disant, ouais, mais alors du coup, comment est-ce qu'on va créer des limites, et les acteurs ont avancé hyper rapidement d'ailleurs sur ce sujet. Meta en tête a dit, ok, vous inquiétez pas, moi j'ai déjà un truc qui a été développé, qui s'appelle la bulle sociale, que je peux activer au travers de mon avatar, et qui permet à aucun autre avatar de rentrer dans les 30 pieds ou 3 pieds autour de moi. Donc on peut continuer à interagir, mais il ne peut pas s'approcher de moi, il ne peut pas me toucher. Donc, il y a des vraies questions qu'il va falloir se poser au fur et à mesure, mais moi, je suis plutôt, c'est exactement, je fais un parallèle par rapport aux IA génératives, au buzz d'il y a 15 jours avec Musk, plein d'universitaires, de chercheurs qui ont dit, attendez, mettons en suspens les IA génératives, les gars, parce que c'est dangereux. Moi, je suis pas de cet avis-là. Je dis plutôt, continuons à innover, à avancer et à réguler au fur et à mesure. C'est-à-dire quand on voit que on a été trop loin et qu'il y a un risque inconsidéré ou improbable, là, on met des limites. Mais si on bride dès le départ, l'innovation se fait pas.
C'était parce qu'il est en retard, parce que...
Oui, c'est ça. Possiblement. Possiblement.
On y a tous pensé.
Mais du coup, en plus, dans le métavers, on peut soit garder son identité telle qu'elle, soit avoir un pseudonyme et on ne sait pas qui se cache derrière l'avatar.
Alors, oui et non. Ah. C'est-à-dire que effectivement, on peut créer un personnage sans avoir besoin de dire que c'est Jérôme Elzac. Et du coup, on peut se transformer comme on le veut. Si j'ai envie d'être une femme dans un métaverse, je peux l'être. Et personne ne saura qu'en fait, derrière, c'est un homme. Pose la question de se dire, ok, alors du coup, le harcèlement, alors du coup,
les
pédophiles qui viennent reproduire. Bon, il faut bien considérer ça comme finalement la même chose que dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, au travers des réseaux sociaux, un pervers qui va venir se créer un compte TikTok en disant qu'il a 10 ans et que c'est une fille et qu'elle veut avoir des copines, c'est des choses qui sont déjà sur Internet aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit différent dans la réalité virtuelle. C'est là où je parlais de barrières, c'est-à-dire qu'il faut effectivement poser des barrières autour de ça. Le pendant de cette réflexion-là, elle est que finalement, pour des personnes qui n'osent pas, qui ont du mal à vivre de façon un petit peu personnelle, dans la façon qu'ils voudraient vivre réellement dans la réalité et qui ne le font pas pour différentes raisons, peuvent vivre cette expérience-là dans le métaverse sans aucune critique, sans aucun regard, sans... Voilà, donc, bénéfice versus risque, c'est quelque chose qui se mesure, je pense, très personnelle.
J'ai bien tracé... le comportement d'une personne dans différents métavers, à partir du moment où elle prend plusieurs avatars, ça peut complexifier en fait un
c'est ça. Et ça l'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui complexe parce qu'il n'y a pas cette interopérabilité. D'accord. C'est-à-dire que parce que les métavers ne sont pas, n'ont pas établi de normes partagées qui permettraient justement de pourquoi pas faire un suivi de la personne, mais tout comme. On ne le fait pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, encore une fois. Et les expériences, ceux qui essayent de le faire, Elon Musk avec Twitter, en disant, les gars, maintenant, vous êtes Twitter Blue uniquement si vous payez un abonnement et on certifie que c'est vraiment Jérôme Malzac, que c'est vraiment le compte de Jérôme Malzac. On voit bien depuis deux mois qu'il y a quand même des robots qui ont dit Twitter Blue, qu'il y a des comptes officiels Twitter Blue qui sont hackés. Donc ça ne garantit pas. Aujourd'hui, rien ne garantit. Parce que c'est la façon dont cette technologie-là de l'Internet est créée, l'identité de la personne. Mmh. Et on n'y est pas encore. Hein. Mmh. Et se pose les mêmes questions sur les sites pornographiques. C'est une vraie question transverse à toute l'activité qu'on peut avoir sur l'Internet. Et le dernier point, moi, qui me semble surtout important, c'est la connectivité et l'interopérabilité. Aujourd'hui, les expériences que je vous ai présentées en vidéo, c'est une. Nous, on est monté jusqu'à une centaine de personnes dans un métaverse. On avait réuni une équipe d'un de nos clients pour un événement de lancement d'une voiture. Et ils étaient 100 dans le métaverse. Et donc, équipés chacun chez eux ou dans un lieu, c'était un mixte hybride physique, de casque pour vivre leur expérience en réalité virtuelle. À 100, ça passe. Aujourd'hui, la technologie de réseau permet de pouvoir le faire, le calcul permet de pouvoir le faire. Là, le métavers, tel qu'on l'imagine demain, c'est 5, 6, 10 millions de personnes qui viennent se réunir au même moment, au même endroit. Donc, il va falloir modéliser les millions d'avatars, faire en temps réel les millions de gestes que chacun de ces avatars va reproduire. Ça demande une capacité de calcul informatique 3D et donc un réseau, un débit réseau colossal. Et aujourd'hui, clairement, la 5G n'y suffira pas. La 6G non plus. Et c'est en ça que j'explique que le métaverse est en cours de construction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre du métaverse aujourd'hui ce que techniquement il n'est pas capable de produire. Et cette connectivité-là, c'est l'enjeu du métaverse de demain. Et l'interopérabilité, j'en ai déjà parlé, c'est cette capacité à pouvoir passer d'une expérience à une autre aussi simplement qu'on fait dans la vie réelle quand on passe de sa cuisine à sa salle à manger, de la salle à manger au bureau. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les acteurs n'ont pas construit ces univers-là, de façon à ce que ce soit interopérable. Moi, j'ai X avatars et aucun ne se ressemble parce que l'outil pour générer mon avatar n'est pas le même chez Meta, chez Spatial.
C'est ça qui est drôle aussi, j'imagine.
Alors, c'est ça qui est drôle aussi, on peut avoir plusieurs identités.
Du coup, ça veut dire que l'argent qu'on récupère dans un monde, on ne peut pas le utiliser dans un autre.
Exactement. J'achète, j'en sais rien, une combinaison ou une paire d'Adidas sur Fortnite, je ne peux pas l'utiliser dans Spatial. Si j'ai envie d'avoir la même paire, je la rachète une deuxième fois. C'est pas acceptable d'un point de vue expérience globale telle qu'on nous vend le métaverse. Il faut qu'on puisse user de ces actifs numériques de la même façon dans tous les espaces.
Et ça veut dire qu'aujourd'hui, une marque qui veut être présente dans le métaverse, elle doit être présente dans plusieurs métavers.
Alors, elle veut, elle peut, elle doit. Tout ça, c'est des questions qu'on se pose en général avec nos clients. C'est une stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des métavers qui sont orientés. Sur certains publics, est-ce que c'est le bon public pour la marque? Pas forcément. Donc ensuite, c'est la stratégie de déploiement et de test and learn qui fait qu'on va plutôt commencer de cette façon-là. On va peut-être pas être présent sur un métaverse, mais on va ouvrir un intraverse, donc une expérience digitale 3D, mais pas au travers d'un des acteurs du métaverse. On va ou pas faire des NFT, parce qu'il n'y a pas d'intérêt forcément à en faire pour toutes les marques. Enfin, tout ça, c'est des questions qui se... réfléchissent et auxquels on répond en fonction de la stratégie de la marque. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, je parle beaucoup.
30 minutes.
Ok. Alors, j'avais listé quelques risques et difficultés au déploiement du métaverse, mais finalement, on en a pas mal parlé. Hein. Déjà, l'infrastructure réseau actuelle, c'est une vraie limite. L'uniformisation et la segmentation, c'est simplement une réflexion où je me dis que quand on regarde un site internet aujourd'hui, quand on regarde l'internet pour une marque, il y a une certaine segmentation de son contenu, de l'expérience qu'il propose sur internet. Une grande marque mondiale ne va pas proposer la même expérience d'achat en Chine qu'en Europe, aux États-Unis, même dans le parcours d'achat. C'est-à-dire dans les pages que je vais afficher, les boutons sur lesquels je vais cliquer, les fonctionnalités que je vais activer ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a
des codes différents
par rapport à la culture, exactement. Et c'est aujourd'hui comme ça que l'Internet est construit. Il n'y a pas cette uniformisation. Quelle serait la raison pour laquelle ce serait uniformisé dans le métaverse demain ? Pour moi, aucune. Pourtant, c'est ce que le métaverse demande, une uniformisation de l'expérience. Là encore, je pense qu'il y a une vraie question qui va se poser, où on va se dire peut-être que ce n'est pas une uniformisation, peut-être que c'est donner accès à des expériences communes, mais sans forcément que l'expérience soit uniformisée en termes de vécu. Ça, c'est un vrai sujet dont il faut que les acteurs s'emparent. Clairement, des expériences très différentes, hein, parce que j'ai aucun intérêt à aller dans le métaverse si je ne vis pas quelque chose que je ne peux pas vivre dans la vie réelle. Aller à un concert à l'autre bout de la planète, je ne peux pas le faire dans la vie réelle. Le métaverse peut m'offrir cette expérience-là. Me retrouver au milieu de l'arène avec les 10 000 autres personnes autour de moi, avec qui je vais pouvoir interagir, danser demain, avec qui on va pouvoir faire un pogo, j'en sais rien, parce que l'aptique sera répandue. Il faut que les expériences soient différentes de ce qu'on fait dans la réalité. Et puis, les limites et la sécurité de la conception, on a commencé à en parler, hein, tous les risques qu'il peut y avoir autour de ces expériences-là. Hein, il faut réfléchir dès maintenant à la façon dont on les contrôle sans brider la technologie ou le déploiement de l'innovation. Alors, quelles sont les expériences aujourd'hui dans le métaverse ? Qu'est-ce qu'on peut y vivre depuis son lancement ? Là, très récemment, si vous l'avez raté, c'est dommage, mais vous pouvez voir les replays, c'était la Fashion Week. Sur Decentraland, c'est la deuxième année que Decentraland se lance sur le sujet. On avait la possibilité de vivre, pour certaines marques, la Fashion Week au travers du virtuel et du digital. Donc c'était présent sur Decentraland, c'était présent sur Spatial, sur Over, dans plusieurs plateformes de métaverse. Permettait à des marques comme cette année, en nouvelle marque, il y avait Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, il y avait toujours Dior comme l'année dernière et d'autres acteurs, Paco Rabanne entre autres.
Balenciaga aussi.
Ouais, Balenciaga, effectivement. Et l'idée est de pouvoir créer, faire vivre l'expérience du défilé de mode au travers du virtuel pour les gens qui n'ont pas pu le vivre en physique. Donc c'est de la remodélisation de l'œuvre qui a été créée pour cette Fashion Week, de l'œuvre réelle, de la robe, du vêtement, du costume réel, en 3D, et avec le défilé des avatars en 3D. Qu'est-ce qu'on peut y vivre ? On peut déjà vivre depuis déjà de nombreuses années des concerts géants sur Fortnite. Travis Scott, Ariana Grande, en 2021, ça rassemble des millions de spectateurs au même endroit, avec un concert en temps réel. Travis Scott, il est bourré de technologie, sur une scène bourrée de technologie, et tous les spectateurs sont en licence et peuvent vivre le concert sur la plateforme comme si vous y étiez.
Et les places, elles sont limitées ?
Alors, les places sont limitées. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est cette capacité de calcul. Donc, parfois, si vous y allez avec 5 amis, ben, vous ne vous retrouvez pas ensemble, forcément, parce que, tout simplement, les serveurs qui font tourner ces environnements-là ne sont pas suffisamment puissants sur un seul serveur. Donc, vous êtes dispatchés sur plusieurs environnements.
Quand vous achetez une place, comment ça se passe ?
Alors, aujourd'hui, non.
Il suffit pour la plupart des expériences.
Voilà. Alors, parfois, si c'est au travers d'une application, vous devez acheter l'application sur le Play Store, sur le store de votre partenaire de réalité virtuelle. Parfois, non. Aujourd'hui, très sincèrement, la plupart des expériences ne sont pas payantes. Bon, on ne va pas se mentir, elles vont le devenir demain. clairement.
Oui, parce que j'imagine un concert, etc. Enfin,
il faut déjà faire venir, faut déjà habituer à faire venir sur une plateforme.
C'est ça. Mais ça, aujourd'hui, c'est ouvert. À un moment donné, ça va être fermé. Si vous allez sur Horizon World, j'ai pas pu mettre de vidéo d'Horizon World parce que Horizon World empêche le cast, empêche de filmer ce qu'on voit sur l'écran. Meta empêche de filmer. Mais sur Horizon World, si vous vous baladez à l'intérieur, vous pouvez aller voir un concert d'un artiste, ils en ont plein. Vous pouvez aller voir un film, vous pouvez aller voir un match de basket. Oui. On pouvait vivre des expériences qui aujourd'hui sont gratuites. Demain, pour aller voir un match de la NBA, ça deviendra probablement payant. Alors peut-être moins cher que dans la réalité, dans la vraie réalité, mais ça deviendra forcément payant.
Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tous les métiers qui sont nécessaires en fait à la création de métaverse, par exemple quand on regarde Fashion Week, une marque qui fait son défilé sur le métaverse, il y a des nouveaux métiers en fait qui se créent. Est-ce qu'ils existent déjà ou il va falloir qu'on les imagine
Alors, ces technologies-là, les technologies immersives, réalité augmentée, réalité virtuelle, et tout ce qui est complémentaire et qui est en train de converger, à savoir les IA génératives, vont créer énormément de nouveaux métiers et d'emplois, clairement. Alors elles vont, on dit souvent, oui, mais elles vont en supprimer. Oui, comme toute nouvelle technologie, à un moment donné, on est obligé de transformer certains métiers, et donc des personnes qui font un métier X aujourd'hui ne le feront plus demain. Est-ce que pour autant elles vont perdre leur emploi? Est-ce qu'on va savoir les accompagner pour se reconvertir? Ça, c'est des décisions.
Mais sachant qu'il y aura toujours besoin des experts, parce que par exemple, il y aura toujours besoin des créateurs pour la Fashion Week, ceux qui vont dessiner les modèles, ceux qui vont les
construire. Exactement. Alors, est-ce que c'est eux qui vont modéliser directement en 3D? Est-ce qu'on va étoffer les équipes pour faire de la modélisation 3D? Je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui. C'est des vrais. Pour certaines activités, c'est vraiment des activités très technologiques. Donc, il faut vraiment avoir une expérience et une formation autour de ça. Mais clairement, on va voir apparaître de nouveaux métiers.
C'est plus peut-être des équipes selon les cas d'usage. Parce que je pensais qu'aussi pour des campagnes politiques, des présidentielles ou autres, etc., de faire des meetings dans un métaverse pour toucher aussi d'autres types d'électeurs, typiquement. Donc ça veut dire que les équipes de com, de campagne vont aussi finalement s'adapter à des nouveaux vecteurs de communication, j'imagine.
Inévitablement. Et c'est ce que font les marques aujourd'hui. C'est-à-dire que les marques qui se lancent sur le métaverse ne le font pas en disant c'est mon business de demain. Elles le font en disant, et c'est nous de toute façon ce qu'on leur conseille de faire, je vais tester, je vais voir l'appétence de mes communautés à ces environnements-là. Je vais voir ce que je peux facilement ou pas faire, ce que je peux imaginer. C'est comme donner un nouvel outil à une équipe marketing. Voilà. L'équipe marketing va avoir tout un tas de nouvelles idées qu'elle n'aurait pas eues sans ce nouvel outil. Ouais. C'est ça qu'on fait aujourd'hui.
On en est à ce stade-là. De clientèle, de la question des influenceurs à l'époque sur les réseaux sociaux, est-ce que les marques allaient les utiliser, comment?
C'est ça.
Oui, ce qui est compliqué, c'est que pour les marques aujourd'hui, elles sont encore en fait dans l'observation parce que on ne sait pas quelle ampleur ça peut prendre.
On est très très en amont de ce qu'on va pouvoir imaginer et créer demain, clairement. Tout le monde teste.
Oui, voilà,
très sincèrement, dans tous les secteurs.
Oui,
bancaire, assurance,
industrie,
distribution, automobile. Tout le monde teste. Tout le monde vraiment teste.
Je vois qu'on a des collaborateurs du MEDEF aussi qui s'occupent de la communication auprès de nos adhérents. Peut-être que le MEDEF va tester ça aussi.
En tout cas, si je continue les expériences qu'on y trouve aujourd'hui, le Grand Prix de l'Open d'Australie en début d'année était dans le métaverse. Vous pouviez suivre certains matchs au travers du métaverse. Ils avaient reproduit l'ensemble du plus grand stade de l'Open d'Australie en 3D. On pouvait se balader dedans, interagir avec des avatars, d'autres avatars. Et puis, ça a été la première vraie campagne de NFT in real life. C'est-à-dire qu'ils ont vendu des capsules historiques, le moment de l'histoire, sous forme de NFT. Donc la balle de match gagnante du Grand Prix de l'Open d'Australie a été filmée et vendue sous forme de NFT aux personnes qui étaient dans, 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 dans l'espace virtuel. Donc c'est vraiment la façon dont on vient finalement, et je pense que ce sera ça demain, le métaverse. Le métaverse sera pas là pour remplacer la vie réelle. Le métaverse sera là pour étendre ce qu'on vit dans la vie réelle. Et donc, les Open d'Australie physiques, les Roland-Garros physiques existeront toujours, sauf qu'on va étendre l'expérience qu'on peut y vivre physiquement d'un point de vue virtuel, d'un point de vue digital. J'en parlais tout à l'heure, Decentraland, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est un exemple Samsung qui est présent et qui vient dévoiler sur 3 étages dans un bâtiment l'ensemble de ses nouveautés de produits. Là, récemment, sur la Fashion Week, pareil, on a pas mal de marques qui ont construit des expériences de play and earn sur The Sandbox. Donc, était présent Celio, Leader Price, Vivendi. Sur ces expériences-là, c'était de la découverte de produits, d'offres au travers du play and earn. Je joue et je gagne un petit peu de crypto si je découvre, si je réponds à la bonne question. Ça peut être des choses trésors, ça peut être de la découverte de contenu. Il y a tout un tas d'expériences différentes qu'on peut imaginer pour ces marques-là, pour venir promouvoir leurs produits ou faire découvrir leur marque. Donc ça, c'était sur The Sandbox, pas plus tard que la semaine dernière, la semaine d'avant. Et puis, on voit bien que les marques continuent à innover et à réfléchir au sujet. Sony, par exemple, se lance et fait son grand lancement dans le métaverse en s'associant avec Theta. Et ils vont créer des NFT qui vont être échangeables. Donc, NFT, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais on peut, si vous le souhaitez, a posteriori en discuter. Mais c'est des actifs numériques, digitaux, numériques. Qui viennent s'échanger sur l'Internet. Donc, vous achetez une œuvre d'art, vous achetez une image, un élément 3D, peu importe, sur l'Internet, il vous appartient. Il y a toute la sécurité du fait que vous avez l'original, même si on peut copier une image sur Internet. On peut dire, moi, tu crées une image, je la pose sur Google, je la prends, je la copie, je l'enregistre sur mon ordinateur et puis elle est à moi. Les NFT, basés sur la technologie de la blockchain, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail technique, garantit le fait que même si quelqu'un a la copie, comme un vrai tableau dans la vie réelle, vous avez l'original. On sait que c'est une copie et que vous avez l'original. Et donc là, ils ont déposé un brevet qui permet de transférer entre les PlayStation, la console de jeu, des NFT de façon très simple. Et on voit bien que cette technologie-là, naissante, certains gros acteurs se l'emparent pour imaginer demain des expériences. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça peut être, j'ai joué à un jeu, j'ai terminé le jeu, j'ai une coupe, je vais pouvoir l'exposer dans un environnement pour dire c'est moi qui ai gagné, ou alors un challenge entre personnes qui jouent au même jeu, refaire la Coupe d'Europe de foot, et puis on va gagner le vrai globe du vainqueur entre deux internautes qui ont joué ensemble. On peut imaginer tout un tas de sujets derrière. De façon beaucoup plus basique, la rentrée scolaire au Japon l'année dernière, en juin, avec la pandémie, ils n'ont pas voulu faire une rentrée scolaire physique. Et donc, ils ont équipé la majorité de des élèves, c'était les petites sections, je crois, de casques de réalité virtuelle. Et ils ont fait la rentrée pendant les premiers jours, non pas physiquement, mais de façon virtuelle. La rentrée des classes est faite de façon virtuelle.
C'est fou. Ouais.
Vous avez des marques comme Heineken qui pareil, se lance sur le sujet. Oui, je ne suis peut-être pas connecté à Internet, mais qui crée des expériences, c'est pas grave, qui crée des expériences dans la réalité virtuelle. Vous avez d'autres marques qui viennent. Si, ça y est. Donc là, c'est dans Decentraland, il me semble. Ils avaient lancé cet environnement-là lors de la finale de. Super Bowl l'année dernière. On a des exemples de marques qui créent des avatars, qui embauchent des ambassadeurs pour créer des avatars et venir promouvoir une marque dans certains espaces. Donc on voit bien que même ce côté marketing publicitaire se retrouve dans ces environnements-là. Et puis il y a des cas aussi sur lesquels d'ailleurs nous on travaille de plus en plus avec les clients qui sont plutôt orientés entreprise, du recrutement dans le métaverse. Ça se fait de plus en plus. De plus en plus d'équipes RH se posent la question. Plutôt que de faire déplacer la personne, qui de toute façon va être en télétravail et qu'on sait habiter à l'autre bout de la France, et qui aura un poste en télétravail, on va la rencontrer dans un univers professionnel au travers de la réalité virtuelle. On va être dans la salle de meeting du groupe de façon plus formelle plutôt qu'un simple Teams qu'on peut avoir. C'est un moyen aussi souvent de faire de l'onboarding de collaborateurs. On ne peut pas faire l'onboarding physique, vous ne pouvez pas venir dans nos locaux et vous faire visiter l'usine, la chaîne de production ou autre. On va le faire au travers de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. C'est un sujet qu'on aborde souvent et des expériences qu'on crée avec des équipes RH, là encore. C'est le moyen de vivre des expériences, vous l'avez compris, c'est ça le but du metaverse, vivre des expériences en temps réel. Et ben, beaucoup d'équipes RH se posent la question de comment est-ce que je peux utiliser cet environnement-là, soit pour former un collaborateur à l'utilisation d'un outil, à l'utilisation d'un appareil, soit pour les acculturer à certains sujets. Certains sujets qui sont parfois compliqués à illustrer au travers d'une vidéo ou d'un simple PowerPoint. La réalité virtuelle est excellente pour ça.
Vous vous mettez
dans la peau d'une victime de harcèlement en entreprise. C'est quelque chose qui est beaucoup plus impactant et que vivre la situation, même si c'est dans la réalité virtuelle, on vit la situation beaucoup plus que si on regarde une simple vidéo qui nous explique ce que c'est le sexisme au travail. Ouais. Donc il y a vraiment tout un tas comme ça d'expériences qui, parce qu'elles sont immersives, parce qu'elles sont beaucoup plus impactantes que la réalité, vous permettre de faire passer un message bien mieux. Hier, au Laval Virtual, j'ai discuté avec PolyAero, qui est un centre de recherche, et qui m'expliquait que depuis qu'ils avaient créé des expériences dans leur métaverse, ils ont créé un métaverse dans lequel on pouvait venir, donc là c'est la formation d'ingénieurs aéronautiques, côté mécanique de la chose, certains de leurs cours, leurs cursus scolaires, ont été accélérés par 4 ou 6, parce que maintenant ils le faisaient en réalité mixte et non plus sous forme de PowerPoint d'exposé dans un amphithéâtre. C'est-à-dire que chaque élève a son casque de réalité mixte ou ses lunettes de réalité mixte et vient manipuler.
C'est
des travaux dirigés, mais de façon beaucoup plus ludique, impactante, parce qu'on est en train de manipuler l'hologramme devant soi. Chose qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant, mettre un moteur exposé pour l'ensemble des 1000 étudiants répartis dans les différentes antennes de PolyAero au travers de France. Ça voudrait dire 10 moteurs exposés dans chacune des 4 coins de la France, là où aujourd'hui, finalement, une seule modélisation 3D du moteur, des cases de réalité virtuelle, et quiconque au travers de son, ou qu'il soit dans son cursus, peut vivre l'expérience. Et ils ont accéléré leur temps de formation de façon assez impressionnante, 4 ou 6 fois, il parle.
Et ça coûte cher, le matériel, enfin un casque de...
Alors, vous pouvez acheter un casque de réalité virtuelle et vivre les expériences dont je parlais là pour à peu près 400 euros aujourd'hui. D'accord. Donc moins cher qu'un smartphone. Ouais. Un smartphone aujourd'hui, si on veut un truc à peu près correct, c'est 600, 800, parfois beaucoup plus, voire un SMIC. Un casque, c'est aux alentours de 400 euros. Ça ne permet pas de tout vivre comme expérience, mais ça vous permet de mettre la main sur, mettre le pied, on va dire, dans ces univers-là. Après, effectivement, si on parle de réalité mixte, de HoloLens, donc le casque de réalité mixte de Microsoft, là, c'est 3 à 4 000 euros. Ouais. Mais pour des entreprises qui ciblent une expérience bien précise qui va apporter du ROI à ce business-là, il y a des vrais intérêts. Ouais. Un investissement de 4 000 euros, si c'est pour accélérer x3 le travail d'apprentissage, de formation de la personne à la manipulation d'une machine, c'est un vrai intérêt.
Non, mais c'est vrai que c'est un outil de communication interne aussi, Metaverse, c'est juste incroyable, quoi.
D'ailleurs,
il
nous reste
5 minutes. 5 minutes, ok. Alors, quels sont les leviers business aujourd'hui de ces environnements-là pour les entreprises? J'ai distingué opportunité à court terme et opportunité à moyen long terme. Parce que, clairement, aujourd'hui, ce sont des outils de communication. C'est comme ça que les marques commencent à s'approprier ces environnements-là. Mais c'est des outils de communication qui fonctionnent plutôt bien. Si je prends des exemples, Givenchy avait lancé avec un artiste chinois ou japonais, je ne sais plus, l'année dernière, la création de NFT à leur effigie, Givenchy. Ils ont vendu ça sur la marketplace la plus connue de NFT qui s'appelle OpenSea. Ils ont vendu 15 NFT pour quelques dizaines, j'ai plus le chiffre en tête, ou centaines de millions de dollars. 15 NFT, ça leur a rapporté plusieurs millions de dollars. Qu'ils ont immédiatement redonné à des agences caritatives. L'action de Givenchy, en 3 jours, a fait fois quasiment 2 quand ils ont fait cette opération-là. Donc aujourd'hui, c'est des opérations de communication qui peuvent, malgré tout, rapporter. Pareil pour Gucci, qui avait fait une expérience pour les bénéfices de l'UNICEF, a vu sa réputation augmenter en quelques jours.
Et puis finalement, peu importe que tout le public soit sur un métavers. En fait, c'est l'opération de communication, ouais. On en parle en dehors du métavers.
Exactement.
Ça fait quand même monter l'image de marque.
Oui, ouais, tout à fait. Tout le monde n'est pas obligé de la vivre, pour autant la communication a été diffusée à tout le monde. La deuxième opportunité très court-termiste, c'est la création de valeur, la création de nouveaux marchés, d'ouverture vers de nouveaux marchés. Vous avez, j'ai plus le nom en tête de cette marque, une marque française. Ah, non, m'échappe.
Dans quel secteur?
Dans le secteur de la mode, qui était assez. Le printemps des cerises. Mais je confonds avec autre chose. Bref, qui était. Qui avait quelques boutiques physiques réputées dans la mode il y a 10 ans et qui finalement a périclité, a fermé, et qui s'est relancé depuis un an exclusivement dans le métaverse et ça cartonne. Donc ils ont refait naître la marque de mode au travers de ces nouveaux univers-là, alors que le côté physique des boutiques était complètement morte. Quand je parle de création de valeur, c'est aussi l'utilisation de ces technologies-là pour, par exemple, mettre en place des logiques de traçabilité. NFT égale blockchain égale traçabilité. Une marque qui veut assurer son client qu'il n'a pas une copie et qu'il a bien l'original, peut le faire de façon très simple au travers de ces technologies-là. En emailant le métavers sur, tu as un univers 3D dans lequel tu viens valider que c'est bien ton sac, ta paire de chaussures, un original et non pas une copie. Donc toute la partie transparence de la fabrication et traçabilité, c'est quelque chose qui peut se faire, qui peut créer de la valeur ajoutée pour une marque. Là où les marques avant n'avaient pas forcément la main sur la seconde main, quand on achète un produit de luxe et qu'on le revend, les marques ne savent pas à qui c'est revendu, comment, pourquoi, et perdent cette traçabilité-là. Demain, avec ces technologies-là, elles peuvent le savoir. Donc ça leur rapporte finalement une visibilité, une connaissance client, un business supplémentaire qu'elles peuvent activer parce qu'elles savent tracer finalement qui a racheté quoi au travers de cette technologie de la blockchain. Ça rejoint un petit peu ce que je viens de vous dire, le côté créer de nouveaux marchés. Et puis, pour moi, le plus important, c'est ce qui va se passer à moyen terme, à savoir notamment s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. La génération Z, la génération principalement Alpha, passe son temps, malheureusement, me direz-vous, sur ces univers-là. Donc demain, elles attendront peut-être des marques, qu'elles soient présentes et qu'elles leur offrent des services et les produits au travers de ces univers-là. C'est difficile parfois de parier sur l'avenir quand on est sur des technologie aussi complexe, mais peut-être que demain, les habitudes de consommation des prochains et futurs consommateurs vont changer et vont se faire sur ces univers-là. Et c'est en ça que les marques doivent s'approprier, comprendre les codes, comprendre comment ça fonctionne, comprendre ce que ça implique dans leur organisation, dès maintenant, pour pouvoir être prêtes dans quelques années. Ça va peut-être être un moyen de réinventer la notion de fidélisation entre une marque et un client. Demain, c'est peut-être plus un coupon de réduction ou une promotion qu'on va venir appliquer, qu'on va avoir envoyé à ses VIP par emailing et que le VIP va avoir appliqué sur le site internet pour fidéliser. Ce sera peut-être une notion de Je t'offre un NFT parce que tu es fidèle, je t'offre de la crypto, je te rémunère en crypto parce que tu es fidèle. Donc il y a des nouveaux usages qui vont naître avec ces nouvelles technologies qui vont devoir être prises en compte et qui peut-être feront demain la fidélisation d'aujourd'hui. Et puis transformer la relation et les expériences clients, ça c'est certain. C'est comment est-ce que, je vous prends un exemple, on a lancé, c'était la fin de l'année dernière, une expérience avec un constructeur automobile qui lançait sa nouvelle voiture électrique haut de gamme. Et pour faire ce lancement-là, on a créé pour eux une expérience digitale. Et ils ont invité exclusivement leurs clients VIP, donc c'était quelques milliers de personnes, c'est une voiture qui coûte plus de 100 et quelques mille euros, à venir assister au lancement, à la fois au travers de la réalité virtuelle et aussi au travers de la réalité augmentée, c'est-à-dire que tous avaient reçu un bouquin qu'on est venu animer au travers de la réalité augmentée, pour faire vivre une expérience à tous ces, en temps réel, au moment du lancement, à tous ces VIP, pour découvrir la nouvelle voiture Body. Donc ça, ce sont des nouvelles expériences qu'on peut lancer, une nouvelle façon de créer ou maintenir une relation entre une marque et un client. Et puis, si les personnes se posent la question, les entreprises, les marques se posent la question de qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, parce qu'on s'est dit beaucoup de choses là, pour moi, la priorité, c'est sensibiliser et former les équipes. Il faut que les équipes marketing, que les équipes RH, que les équipes IT des entreprises prennent conscience de ce que sont ces nouveaux univers. C'est quoi les métaverses? C'est quoi les technologies sous-jacentes à ces univers-là? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec? Et donc, c'est surtout, dans un premier temps, de la sensibilisation de la formation. Il faut être en veille constante, parce que ça évolue très, 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 très vite. Il y a des métaverses qui se créent tous les jours, il y a des métaverses qui meurent tous les jours. Il y a des technologies qui avancent très vite, et ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on pourra le faire demain. Donc, il faut être en veille constante. Souvent, les marques se demandent, est-ce que je recrute un profil ou pas, expert du sujet. La technologie évolue tellement vite que l'expert d'aujourd'hui ne sera plus l'expert de demain. Et souvent, on voit bien que les jeunes générations sont hyper appétentes à ces sujets-là. Donc, avant de recruter à l'extérieur, c'est bien de regarder à l'intérieur les générations Z, Alpha, qui sont, enfin, Alpha pas encore, mais Z qui sont déjà présents dans l'entreprise. Il y a parfois, souvent, des potentiels à exploiter, à utiliser, enfin, à mettre en avant pour aller vers ces univers-là.
C'est ce qu'on a vu hier avec les étudiants qui, en deux semaines, avaient pitché des choses et puis fait des choses incroyables, développer des applications qui étaient même plus incroyables que ce que certaines entreprises proposaient. Hein.
C'est les publics qui sont hyper appétents à ces technologies-là. Donc, passionnés, motivés, donc, ça va assez vite. Moi, j'avance souvent plus vite sur toutes les expériences. Je poque beaucoup de par ma responsabilité d'innovation. J'ai à la fois des équipes historiques dans le groupe, et des alternants qui me rejoignent. Et souvent, les alternants avancent plus vite, alors qu'ils ont moins de connaissances que les plus anciens, mais parce qu'ils ils connaissent déjà les codes. Chose que
ils sont moins bridés, peut-être.
Moins bridés, et puis ils ont tout de suite une vision un petit peu plus large de ce qui serait possible de faire. Et puis, le dernier point, qui est pour moi hyper important et qui est lié à ce dont on parlait au début, le Web3, c'est ce paradigme de la donnée client. La donnée client, de par la transformation du Web 2 vers le Web 3, de par, de façon totalement invisible, la diffusion de la blockchain, l'utilisation de ce type de réseau-là, ça va avoir un vrai impact sur la donnée client, et ce nouveau paradigme-là, il faut que les marques l'anticipent aujourd'hui. C'est important. Elles n'utiliseront pas la donnée client aussi facilement ou de la même façon demain que ce qu'elles peuvent le faire aujourd'hui. Et ça a anticipé, c'est un vrai sujet à anticiper. Et puis j'avais gardé un slide pour la fin sur et la suite, alors qu'est-ce qui va se passer demain ou après-demain? Difficile d'avoir une vraie conviction sur le sujet. Moi pour autant, je suis certain qu'il va y avoir un vrai rapprochement entre deux révolutions, le métaverse et les technologies sous-jacentes au métaverse, dont on parlait tout à l'heure, blockchain, crypto, etc. Ça. Et les IA génératives. Aujourd'hui, aucune entreprise n'est capable de créer, ou en tout cas pas sans renfort de temps et d'argent, tous les univers qu'on pourrait imaginer demain. les IA génératives pour le faire. Aujourd'hui, créer un environnement 3D, c'est pas encore ChatGPT, OpenIA, pardon, qui va nous le faire, mais dans un an, l'accélération est phénoménale. On est en train vraiment d'accélérer. Pour moi, on est en train d'assister à une révolution qui a été la révolution de l'Internet à son époque, réellement. Et donc, ce qu'on n'est pas faisable là, va l'être dans les mois à venir. Et donc, ce qui va se passer, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit hein, quand Meta dit « Ok, le métaverse, la 3D, je vais peut-être un petit peu me délester de quelques collaborateurs qui font de la 3D, puis je vais investir sur l'IA, parce qu'en fait, c'est l'IA qui va créer la 3D. C'est pas les collaborateurs hein, qui vont créer la 3D. Alors, bah, on aura toujours besoin d'ingénieurs, par contre, pour faire marcher ces IA. Hein. Les data scientists ont des beaux jours devant eux. Mais on voit bien que finalement, le métaverse pourra continuer à se développer et à exister uniquement parce qu'il faut qu'il soit accéléré par ces technologies que sont les IA génératives. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas. J'espère que ça vous a éclairé sur ces sujets-là.
C'était passionnant.
Si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir y répondre.
Oui, on en a posé quelques-unes pendant votre présentation et c'est aussi pour ça qu'on a débordé un petit peu parce que c'est vrai que c'est un sujet tellement passionnant qu'on ne peut pas s'empêcher de poser des questions. Si vous avez des questions, allez-y. Est-ce que c'était une main levée ou est-ce que c'était quelqu'un qui applaudissait pour. Ouais, merci. Je vois pas de questions apparaître.
Ok.
Mais c'est vraiment. C'est incroyable ce qui va arriver quoi. Je veux dire, ça va vraiment être.
Si toutes les planètes s'alignent, c'est-à-dire que les acteurs qui construisent ces univers-là vont au bout de la démarche d'uniformisation, c'est-à-dire prennent conscience qu'ils ne prendront pas le monopole. Je pense à Marc, notamment. Ne prendra pas le monopole du sujet et qu'on construit une interopérabilité, qu'on construit un socle commun, c'est de la première étape indispensable. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de réfléchir à l'UX, à la simplification de ces expériences-là. Et ensuite, naturellement, l'évolution technologique va faire que les expériences vont être de plus en plus riches, de plus en plus pertinentes et de plus en plus adaptées à. Faire vivre des expériences différentes par rapport à la réalité. C'est ça le principe même qui fera que le métavers marchera ou pas. On y vit des choses qu'on ne sait pas faire dans la vie réelle, de façon simple et de façon simple et facile quoi. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'un matériel lourd, fatigant à porter, qu'il faut brancher toutes les heures parce qu'il se vide ultra vite. Donc ça implique de l'évolution matérielle, ça implique de l'évolution d'usage, ça implique de la création de nouvelles expériences.
De normes.
Oui, de normes, un cadre juridique. Et si tout ça marche bien. Mais moi, souvent, les gens me disent « Bon, t'as vu, le métavers, c'est mort. » Je leur dis « Oui, tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'on le fantasmait, tel qu'on nous l'a fait fantasmer, parce que c'est pas du tout seul, aujourd'hui, oui, il est mort. Mais le web ne s'est pas fait. Le métaverse, c'est 2 ans. C'était il y a 2 ans. Même si la technologie existe depuis bien plus longtemps. Réalité augmentée, moi j'en fais depuis 5 ans. Réalité virtuelle, pareil. De façon crédible, j'entends. Parce que ça existe encore depuis bien plus longtemps que ça. Mais finalement, le haut de la vague, enfin, là où on a vraiment commencé à réfléchir à ces usages-là, c'est il y a 2 ans. Est-ce que le web s'est construit en 2 ans? Le web est apparu dans les années 99-2000 de façon grand public et a été révolutionné en 2008 grâce à Apple. Tant qu'on n'avait pas de smartphone, les usages n'étaient pas là. C'est le smartphone qui a créé les usages. Donc, allez, une décennie, quasiment. Et là, on attend du métaverse qu'en 2 ans, la révolution soit la même que celle qui a pris une décennie. C'est pas possible.
Mais heureusement, Elon Musk a dit il faut ralentir.
Ouais, là-dessus, ça c'est un autre débat qui prendrait beaucoup de temps pour échanger. Mais c'est toujours pareil. Je ne dis pas que cette révolution que sont les IA génératives n'est pas mauvaise ou n'a pas de risque. Je dis juste qu'il ne faut pas commencer par brider et limiter l'innovation, parce que sinon, elle ne se fait pas. Mmh. Il faut laisser libre cours à tous ces chercheurs, à toutes ces, tous ces experts qui veulent expérimenter de nouvelles choses, et encadrer au fur et à mesure. Et c'est pareil, quand j'entends l'Italie qui dit « Ok, ChatGPT les gars, fini. » L'Europe qui commence à se poser la question. Aujourd'hui, on ne peut plus interdire quoi que ce soit. L'interdiction n'existe plus dans le numérique. Il faut avoir, bien avoir conscience de ça. C'est-à-dire que hier ou avant-hier, sur le dark web, ils ont fermé la plus grosse plateforme de hacking du dark web. Grand renfort de communication, vous avez vu, avec nous.
On va se rouvrir ailleurs.
Elle s'est déjà ouverte. Bah, oui. C'est-à-dire que les mêmes acteurs ont déjà ouvert une autre plateforme sur le dark web. On ne peut pas interdire aujourd'hui dans le digital. C'est pas possible. Il faut accompagner, expliquer, réglementer, mais la contrainte n'existe pas. Demain, les Italiens qui n'ont plus de ChatGPT depuis une semaine, ce n'est pas encore fait, puisqu'ils ont laissé 2 ou 3 semaines à OpenAI pour se mettre d'écart avec la législation italienne, mais quand ce sera le cas, ben, n'importe qui s'il utilise un VPN, et va utiliser son VPN, et passera par la France, l'Allemagne, on ne sait rien. Mais... Donc aujourd'hui, il ne faut pas considérer que l'interdiction est quelque chose, est un vrai outil, parce que ce n'est pas le cas. C'est l'éducation. Le savoir, c'est. Enfin, l'éducation, c'est le savoir. Et c'est le pouvoir. Donc, il faut éduquer, il faut expliquer, il faut mettre des limites à ne pas franchir. Et c'est que comme ça. Et le potentiel de l'IA générative est colossal. Et on a. Aujourd'hui, on s'en sert bêtement. Il y a des vrais cas d'usage. Moi, je m'en sers vraiment au quotidien pour plein de choses. Mais le grand public, au global, s'en sert pas. Alors si, pour lire une histoire à son enfant le soir, du coup, tu la lire, pour la faire lire ou inventer l'histoire à son enfant ou quoi, ça marche très bien. Hein. J'adore. Et puis avec la vidéo qui va avec et les images qui vont avec. Mais aujourd'hui, on est à 1% de ce que sera l'usage de ces technologies-là dans 1, 2, 5 ans.
Merci voilà. Beaucoup. Déjà, on en sait déjà plus. Et donc, on est informés. Voilà. Donc,
j'étais ravi. Merci de l'invitation.
Un grand merci. Merci à tous. À bientôt. Passez une excellente journée.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.